Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La culture n'est pas un luxe. Elle est même un facteur d'intégration très puissant. Les musées de Berlin l'ont bien compris. Ils organisent des visites guidées en arabe de leur collection, pilotées par et pour des réfugiés. Au départ, l'expérience ne concernait que le musée de Pergame, connu dans le monde entier pour ses collections d'art islamique. Mais depuis, l'idée a été reprise par le musée d'histoire de la ville. Une façon pour les réfugiés d'intégrer en douceur l'histoire de leur pays d'accueil et de se l'approprier. Visite avec Déborah Berlioz à Berlin.
Une vingtaine de réfugiés se pressent dans l'entrée de l'impressionnant musée d'histoire allemande. Pour eux, nul besoin de passer à la caisse, l'entrée est gratuite, tout comme la visite guidée qui se fera en arabe. Aujourd'hui, c'est Sandy qui va les entraîner dans les couloirs du musée et leur faire découvrir l'histoire de leur pays d'accueil. Cette Syrienne de 22 ans adore son nouveau métier de guide, même s'il est bien loin de sa formation de comptable.
Je vis en Allemagne depuis presque 2 ans. J'ai suivi un cours d'intégration et maintenant je travaille. Je suis guide pour ce projet ici au musée depuis le mois de janvier. C'est un ami qui m'en a parlé. Ça m'a bien plu. L'histoire en général et l'histoire de l'Allemagne m'intéressent beaucoup. Mais malheureusement, je ne connaissais rien à part ce que j'avais lu sur Internet.
Sandy a donc été formée avec 18 autres réfugiés par les musées de Berlin. Ce projet d'intégration culturelle a été baptisé Multaka, ce qui veut dire « point de rencontre » en arabe. Au départ, il a été lancé par l'équipe du musée Pergame à Berlin, qui abrite la majeure partie des collections allemandes d'art islamique. Les initiateurs pensaient que cela ferait du bien aux réfugiés déracinés de renouer avec leur patrimoine. Mais bien vite, les demandeurs d'asile ont commencé à poser des questions sur l'histoire de leur pays d'accueil. Le projet a donc été étendu au musée d'histoire allemande et ses visites ont un énorme succès. Aujourd'hui, le premier arrêt se fait devant un portrait de Martin Luther, le père du protestantisme allemand. La réforme, les chrétiens qui se déchirent, le sujet passionne les réfugiés, raconte Boris Nitsche, porte-parole du musée.
L'Allemagne aussi a été dévastée pendant 30 ans par des guerres de religion. Tout de suite, ça renvoie les réfugiés à leur propre situation. Ils trouvent ça passionnant, surtout de voir comment un pays divisé, déchiré, finit par se retrouver. C'est un sujet dans lequel ils voient des parallèles, mais ils y trouvent aussi de l'espoir et en tirent des leçons. En fait, ils apprennent à mieux connaître le pays et ça leur ouvre aussi des perspectives pour leur propre histoire.
Souvent, les réfugiés viennent dans le cadre de leur cours d'intégration avec leur prof d'allemand. Les visites ne sont toutefois pas classiques, pas chronologiques. Le but n'est pas de leur donner un cours d'histoire, mais de favoriser le dialogue entre les civilisations, l'échange mutuel. Par exemple, devant une vitrine consacrée au nazisme, Saïp, un entrepreneur de Damas, fait tout de suite le parallèle avec la dictature de Bachar el-Assad.
Quand je vois les problèmes que les Allemands ont eus avec Hitler, ça me rappelle l'histoire du peuple syrien. C'est la même histoire. Et je suis sûr que si les Allemands ont autant d'empathie pour les Syriens, c'est parce qu'ils ont eu avant les mêmes problèmes.
Quant à Sultan, c'est la grande maquette qui reproduit les chambres à gaz d'Auschwitz qui retient surtout son attention. À l'école, on lui a appris que l'Holocauste était une invention des Occidentaux.
On nous a dit que c'était un mensonge pour que l'Europe puisse envoyer ses juifs en Palestine. Et si quelques juifs ont bien été tués, c'était juste les vieux ou les malades. Et ici, au musée, je peux voir la vérité, voir ce qui s'est vraiment passé.
Le groupe passe ensuite devant les films et les photos qui montrent l'Allemagne dévastée après la Seconde Guerre mondiale. On y voit le pays en ruine, occupé et partagé entre les vainqueurs du conflit. Des images qui imposent le silence parmi les visiteurs, sans doute parce qu'elle leur rappelle la destruction de leur propre pays. Mais Mohamed préfère s'intéresser à la suite, à la reconstruction et à la réunification de l'Allemagne.
Je suis frappé de voir à quelle vitesse l'Allemagne se redresse. Il a fallu 25 ans environ. Et je pense au futur de la Syrie, la manière dont les gens se sont retrouvés réconciliés en Allemagne, grâce à l'éducation notamment. Il faudra faire comme ça chez nous. Ce parallèle entre l'Allemagne et la Syrie me donne de l'espoir aujourd'hui.
Détruite, vaincue, partagée en deux, malgré tout cela, l'Allemagne est aujourd'hui la première puissance européenne et la quatrième puissance économique mondiale. Le groupe ressort donc de la visite enthousiaste et optimiste. L'histoire tumultueuse de l'Allemagne leur redonne confiance. Un beau résultat auquel ne s'attendaient pas forcément les initiateurs du projet. Ces visites fonctionnent d'ailleurs tellement bien que Multaka a reçu en mai le prix fédéral du meilleur projet d'intégration.
Le délit de faciès, les contrôles policiers destinés en priorité aux gens de couleur. Tous les pays occidentaux souffrent de ces dérives sécuritaires, mais aux Pays-Bas, où l'on compte 3,7 millions d'immigrés et d'enfants d'immigrés sur un total de 17 millions d'habitants, on a pris la mesure du problème. Il faut dire que plusieurs affaires ont défrayé la chronique. L'interpellation d'un rappeur et d'un footballeur très connu, au seul motif qu'ils étaient noirs, des élus et des militants associatifs proposent aujourd'hui des outils pour lutter contre ce profilage ethnique qui reste trop souvent caché. À Amsterdam, c'est le reportage de Laurent Berthaud.
Gérald Roethoff est avocat en droit criminel de 43 ans. Il est originaire du Suriname, ancienne colonie néerlandaise. Et c'est justement sa peau foncée qui lui a valu d'être arrêté il y a quelques années. Une expérience qu'il évoque aujourd'hui encore avec beaucoup d'amertume.
J'aime les jolies voitures. Et il y a quelques années, j'étais au volant de ma BMW 7 dans le quartier de Balmer, un endroit avec pas mal de problèmes. Et là, sans aucune raison, la police m'arrête. Ça m'était déjà arrivé auparavant, sauf que cette fois-là, ils ont voulu fouiller ma voiture. Je leur ai répondu, vous n'avez pas le droit, vous devez avoir une bonne raison pour cela. Le fait de conduire une BMW ne suffit pas. Si vous n'avez pas de bonne raison de le faire, je ne vous laisserai pas fouiller mon véhicule. Alors ils ont dit, on cherche de la drogue. Là, j'ai répondu, quelle drogue? Pas de réponse. Et ils ont repris, bon, c'est un simple contrôle routier. Ok, j'ai dit, dans ce cas, voilà mon permis de conduire, les papiers de ma voiture, mais pas de fouille du véhicule. Ils se sont regardés et m'ont dit « Écoutez, si vous ne sortez pas de la voiture, on va devoir faire usage de la force. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont aspergé de gaz lacrymogène. Ils m'ont passé les menottes. Ils ont fait venir d'autres policiers. Finalement, un officier a réalisé qu'ils avaient arrêté la mauvaise personne. Mais ils m'ont quand même emmené au poste. Voilà, je suis un exemple vivant que des personnes se font arrêter parce qu'elles ont la peau foncée. Et cela arrive à d'autres que moi.
Choqué par son arrestation, Gérald Roethoff a finalement renoncé à porter plainte, principalement parce que dans son quotidien, il est amené à travailler régulièrement avec des policiers et leurs supérieurs hiérarchiques, à qui il rappelle chaque fois qu'il le peut ce que dit précisément la loi néerlandaise.
You need to have something.
Vous devez vraiment avoir une raison solide d'arrêter cette personne. Le seul fait que quelqu'un conduise une belle voiture avec une casquette ou des lunettes de soleil dans un quartier précis, ça ne suffit pas. Il faut une très bonne raison. Si par exemple vous avez vu quelqu'un avec un consommateur de drogue connu et qu'il a tendu quelque chose à cette personne, alors là oui, vous pouvez l'arrêter et fouiller la voiture.
Et pourtant, malgré la loi, les Néerlandais plébiscitent ces pratiques. 64% des personnes interrogées dans un sondage en juin dernier estime normal que la police arrête les gens en fonction de la couleur de leur peau ou de leur origine ethnique dès lors qu'il s'agit de lutter contre la criminalité. Une attitude qui ne surprend pas vraiment Lassi, originaire de Côte d'Ivoire, néerlandais depuis 20 ans, cet ingénieur informatique prépare actuellement un documentaire sur le racisme aux Pays-Bas. Un racisme inconscient, selon lui, qu'il explique endurer au quotidien.
Je roule dans une Volvo que j'étais oublié de mettre à côté. Pour une petite voiture. Parce que souvent, tu es arrêté. Et tu es arrêté, tu te demandes, mais pourquoi je suis arrêté? Et mais là, tu te rends compte que c'est parce que ce petit policier-là, il ne se dit pas que, il ne peut pas s'imaginer que cette voiture que lui ne peut pas avoir, toi, tu peux l'avoir.
Je veux pas se goed doen, maar doen wat juist is, mezelf zijn. Dat is soms lastig, zelfde ticket, zelfde trein. Lobby de passie, of liever verdien. Ik heb nooit geloofd dat ik liefde verdien.
Aux Pays-Bas, Typhoon est un rappeur très connu, sauf du policier qu'il a arrêté il y a quelques mois, justifiant du fait que ce conducteur était noir, jeune et au volant d'une voiture de luxe. L'affaire n'en est pas restée là. Le ministre de la Justice s'est finalement excusé et a expliqué que si racisme il y avait, il était le fait d'homme et non de policier, et qu'en tout état de cause, il désapprouvait ses pratiques. Typhoon, de son côté, a finalement accepté de travailler avec la police sur cette question du profilage ethnique. D'autres n'ont pas attendu cet événement pour proposer des réformes au sein de la police, comme Sophia Mbarki, membre social-démocrate du conseil municipal d'Amsterdam, Amsterdam, en charge du dossier de la sécurité et de la diversité.
La police est au courant de ce problème depuis au moins 15 ans, mais elle ne sait pas franchement comment le résoudre. L'une des solutions envisageables, c'est ce qui se fait déjà au Royaume-Uni avec les Stop Forms, le formulaire que chaque policier doit remplir chaque fois qu'il arrête quelqu'un. Cela l'oblige à se demander, est-ce que je l'arrête à cause de son comportement ou à cause de son apparence ? Si les policiers ne sont pas capables de repérer les individus vraiment louches des autres, au bout du compte, la criminalité augmentera. Le Stop Form, c'est aussi un moyen de lutter contre la discrimination.
Même si la question du profilage ethnique s'invite désormais sur les plateaux de télévision, on ne dispose pour l'instant d'aucune donnée sur ce phénomène, d'où l'idée d'un jeune artiste, le rappeur Rekels, qui fut un temps responsable d'un parti politique, de développer une application pour téléphone portable. Elle devra permettre de signaler de façon très documentée tout délit de faciès aux Pays-Bas et ailleurs.
Cette appli permettra de prendre une photo du policier, de le filmer pendant une trentaine de secondes, et on peut y indiquer son matricule, toutes les remarques sur les circonstances du contrôle. Et cela nous permettra d'avoir des statistiques, parce que lorsqu'on parle du problème à la police ou aux hommes politiques, ils nous disent « Mais est-ce que vous avez des chiffres ?» Pour l'instant, non, parce que les policiers, eux, n'ont pas de chiffres. C'est pour cela qu'on a besoin de données, et pas seulement au niveau du pays, mais de toute l'Europe, en particulier avec les Anglais. Il faudrait une appli qui soit active dans toute l'Europe afin d'utiliser les données de tous les pays. Alors, on les présentera à Bruxelles et on dira « Là, il y a un problème de dimension européenne. »
La campagne de financement participatif pour développer cette application a déjà permis de récolter 10 000 euros sur les 25 000 nécessaires. Une application qui, espère le rappeur, devrait aussi inciter les policiers à effectuer les contrôles avec moins d'a priori. We'll be proud to say, I
am an European. On saura la semaine prochaine qui prendra le contrôle des 60% du capital détenu par l'État dans les deux aéroports français de Lyon et Nice. Ce sera le point final d'une privatisation qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, le groupe français Vinci semble favori, mais que n'a-t-on entendu lorsque le groupe turc Limak était en lice ? Pour de nombreux politiques, on bradait alors la souveraineté française. Et pourtant, à y regarder de plus près, beaucoup d'aéroports européens sont détenus au moins en partie par des groupes étrangers. C'est ce que va nous expliquer Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Des aéroports français rachetés par des groupes privés étrangers, est-ce si grave que cela Daniel ?
Non Frédéric, je dirais que c'est plutôt banal en Europe et même en France. Rappelez-vous, l'an dernier, l'État a cédé 49,9% du capital de l'aéroport de Toulouse-Blagnac au chinois Casil. Et que je sache, les avions continuent de décoller et d'atterrir à Blagnac sans que la ville rose se soit mise à parler mandarin. Plus sérieusement, les aéroports constituent des pôles de développement économique importants et nécessitent des investissements d'envergure que les États ou les collectivités locales n'ont plus forcément les moyens de financer. Nice-Côte d'Azur, deuxième aéroport français après Paris-Charles de Gaulle, avec un trafic annuel de 12 millions de passagers, affiche un taux de rentabilité certes élevé, 20%, mais pourrait se développer beaucoup plus à l'international.
Et des aéroports privés, ce serait une nouveauté en France ?
Absolument pas. La France est même derrière le Royaume-Uni, la Bulgarie et quelques autres petits États comme le Portugal ou la Slovénie, une des nations européennes où les aéroports totalement privés sont nombreux. Il y en a 22 sur 52. Le groupe français de construction et de concession d'infrastructures Vinci en possède 8, dont Grenoble, Poitiers, Quimper ou Toulon. Mais la palme revient au groupe canadien SNC-Lavalin qui en détient 12. Sont ainsi détenus à 100% par ce groupe étranger les aéroports de Cherbourg, Angoulême, Dijon, Le Havre, Reims ou Rouen. On peut donc se demander si pour certains élus locaux, les Turcs ne sont pas plus étrangers que d'autres.
Et les autres aéroports français sont donc publics ?
18 le sont entièrement et 12 sont à capitaux mixtes. Nice et Lyon, comme 16 autres, sont pour l'instant détenus par l'État français, ainsi que par les chambres de commerce, la région, le département, la métropole régionale. Deux aéroports, Nantes et Toulouse-Francazal, sont majoritairement privés. Enfin, 10 aéroports sont à capitaux majoritairement publics, dont les 3 aéroports de Paris, Charles de Gaulle, Orly et Le Bourget, puisque la société ADP est détenue à 50,6% par l'État français et à 23% par des actionnaires étrangers.
Et les autres grands aéroports européens ont-ils ce type de gouvernance mixte?
Sur les 10 principaux aéroports européens en termes de trafic, seulement 4 sont à capitaux mixtes majoritairement publics. Outre Charles de Gaulle, qui occupe la seconde place du classement avec 65 millions de passagers par an, il y a Francfort, cinquième aéroport européen. Il y a également les aéroports de Madrid et de Barcelone, respectivement sixième et dixième du classement.
Et y a-t-il des aéroports purement publics?
Oui, l'aéroport de Munich, sixième plateforme européenne, est détenu par l'État de Bavière, l'État fédéral et la ville de Munich. On peut dire aussi que le cinquième aéroport européen, Amsterdam-Schiphol, est totalement public puisque le ministère des Finances détient 70% de Schiphol Group et la ville d'Amsterdam 20%.
Reste donc 4 aéroports privés.
Oui, Istanbul-Atatürk, troisième plateforme européenne avec près de 62 millions de passagers. Rome-Fiumicino, numéro 8 européen, est contrôlé à 96% par le groupe italien de concession autoroutière Atlantia. Enfin, les deux aéroports de Londres sont totalement privés. Heathrow, premier aéroport d'Europe avec 75 millions de passagers. Ses actionnaires sont l'opérateur d'infrastructure espagnol Ferrovial pour 25%, Qatar Holding, propriété du fonds souverain qatari, pour 20%, ou encore la Caisse de dépôt du Québec et la China Investment Corp.
Et au final, que peut-on conclure de cette diversité de gouvernance des principaux aéroports d'Europe?
Eh bien qu'il n'y a dans ce secteur aucune recette organisationnelle ou capitalistique miracle. Des aéroports publics peuvent avoir un taux de rentabilité élevé, comme celui d'Amsterdam, par exemple, qui atteint 26%. Sur les 5 premiers aéroports, on compte 2 privés, 1 public et 2 mixtes. Le rythme de développement et l'importance des recettes commerciales non aériennes ne sont pas non plus fonction de la nature publique ou privée du capital. En fait, entre en ligne de compte la capacité d'investir des détenteurs du capital et également, pour l'ouverture à des investisseurs étrangers, la nécessité de créer des synergies à l'étranger pour accroître l'internationalisation. Rien, en tout cas, ne permet de faire du contrôle d'un aéroport un outil de souveraineté.
Merci beaucoup, Daniel. À la semaine prochaine.
À bientôt, Frédéric.
C'est un petit îlot situé à la frontière entre le Monténégro et l'Albanie, une réserve naturelle qui est aujourd'hui victime de son succès. L'afflux de touristes chaque été à Ada Bojana pourrait bien être fatal à ce petit paradis. Les explications de Simon Rico.
Ada Bojana, c'est une petite île d'à peine 5 km carrés, entourée par les eaux du delta de la Bojana, le fleuve qui lui a donné son nom. Elle s'est formée petit à petit grâce à l'apport des alluvions charriées depuis les montagnes par le petit cours d'eau long de 40 km. Mais aujourd'hui, les écologistes sont inquiets. Chaque année, la côte de l'île recule, la faute aux barrages construits ces 50 dernières années et qui bloquent les sédiments. À terme, Ada Bojana pourrait même disparaître corps et âme. Pour le moment, c'est un autre fléau, le tourisme de masse qui guette ce minuscule paradis naturel, longtemps préservé de toute activité humaine. À l'époque yougoslave, l'îlot a d'abord été interdit en tant que frontière avec un pays ennemi, puis réservé aux clients du complexe naturiste construit en 1973. Mais depuis les années 90, c'est devenu la destination à la mode pour les habitants branchés et fortunés de Belgrade, malgré son statut de réserve naturelle. Ils ont peu à peu racheté illégalement des terrains pour y bâtir des villas et des restaurants à la place des baraques de pêcheurs. Aujourd'hui, même les touristes étrangers viennent découvrir ce lieu insolite, recommandé par un nombre croissant de guides, vantant ses charmes méconnus, dont la longue plage de sable fin. Problème, le début de la saison coïncide avec la période de reproduction des oiseaux nicheurs, dont des espèces uniques en Europe. Après avoir longtemps laissé faire, les autorités monténégrines ont fini par rendre l'accès de l'île payant aux véhicules durant l'été. Le moyen de limiter le nombre de visiteurs est de collecter un peu d'argent pour préserver l'environnement.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Bessé. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux. À demain. Autour de